Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue ce matin. Nous sommes en direct à l'IPI, comme vous voyez, et nous sommes encore heureux de passer un dimanche ensemble, pas physiquement, mais tous connectés, connectés aussi avec notre Seigneur. Alors, sans plus tarder, je vais vous lire juste un passage dans les Psaumes 92, versets 2 à 6. Il est écrit « il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe. » Alors on n'a pas de luth, on n'a pas de harpe, mais on a une batterie, on a une basse, un piano, et puis on a nos cordes vocales aussi ce matin. Il est écrit au verset 5, « Tu me réjouis par ce que tu as accompli, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. » Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. Amen. Je ne sais pas comment vous vous êtes réveillés ce matin, mais moi, dès ce matin, en ouvrant les yeux, un chant est venu sur mon cœur, vraiment pour louer, adorer le Seigneur. Alors, c'est ce que nous allons faire ensemble. Et avant même, je vais prier pour ces instants. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu es déjà là, au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Je te bénis, Père, parce que tu as préparé d'avance ces instants. Et nous voulons vraiment entrer ce matin dans ta louange, dans ton adoration. Nous voulons ouvrir nos bouches, Père, et élever nos voix, là où nous sommes, dans nos salons, dans nos chambres, Père, en famille ou seul, Père éternel, mais unis avec toi, tous connectés ensemble, pour te dire encore ce matin, merci, merci du souffle de vie que tu nous accordes. À toi sous toute la gloire, mon Dieu. Amen.
Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. longtemps tu es bon, Seigneur.
Et ta grâce envers nous durera jamais.
Dieu, tu es bon.
Dieu, tu es bon. Et ta grâce envers nous durera jamais.
Nous les peuples
de toutes les nations, de génération en génération, nous te
Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération,
nous te louons.
Jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
Nous les peuples
de toutes les nations, de génération en génération,
nous te louons.
Alléluia,
alléluia, alléluia, nous te louons.
Nous te louons,
alléluia, alléluia, nous te louons,
pour qui tu es,
pour qui tu es,
pour qui tu es,
tu es bon.
Jamais les bontés de l'Éternel et proclamer d'âge en âge sa fidélité. En effet, je peux le dire, ta bonté est établie pour l'éternité. Dans les cieux, tu as ancré ta fidélité. Tu as déclaré, j'ai contracté une alliance avec mon élu, à David, mon serviteur, j'ai fait un serment. J'affermis ta descendance pour l'éternité et j'établirai ton trône au siècle des siècles. Ô Éternel, les cieux chantent tes prodiges, l'assemblée des saints célèbre ta fidélité.
Assis sur le trône, Évêtu de gloire, Seigneur,
sois exalté. Tu es digne de louange, vêtu de splendeur, entouré d'honneur. Seigneur, sois élevé. Tu es digne de recevoir tous nos louanges.
Nous t'adorons, ô Seigneur. Nous adorons, ô Seigneur. Nous adorons, ô Seigneur. Nous t'adorons, ô Seigneur. Nous t'adorons, ô Seigneur. Nous t'adorons, ô Seigneur.
Assis sur le trône, et vêtu de gloire, Seigneur, sois exalté. Tu es digne de louange, vêtu de splendeur.
Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur.
Ô nuit, tu règnes, Jésus, dans nos louanges, Père, ce matin. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous t'intronisons, roi, dans nos vies, Jésus. Jésus, nous t'intronisons, roi. Nous t'intronisons, roi, dans nos vies. Nous t'intronisons. Nous t'intronisons, roi. Nous t'intronisons, roi. Dans nos vies, nous t'intronisons, roi. Nous t'intronisons, roi. Nous t'intronisons, roi. Dans nos vies.
Oh oui, Jésus, tu es.
Jésus, tu es Seigneur.
Qui sauve avec puissance, nous t'adorons, Seigneur, ce matin, Jésus. Nous avons besoin de ton amour, Seigneur. Oh Jésus, de ton pardon, ta bonté, oh Seigneur, gloire à toi. Amen.
Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur de nous accompagner tous les jours. Merci Seigneur pour la vie au quotidien. Merci Seigneur d'être présent dans nos vies et de te manifester. Merci pour la vie Seigneur. Sois béni, sois élevé Seigneur. Touche encore quelqu'un ce matin. Que nous soyons tous unis Seigneur en ta présence par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, amen.
Jésus, merci parce que tu es sur le trône, nous le déclarons, tu es sur le trône de nos vies. Et même, Seigneur, dans les domaines sur lesquels tu n'es peut-être pas encore sur le trône dans nos vies, où tu n'es plus sur le trône, Seigneur, nous voulons te dire, reviens, Seigneur, prends toute la place, prends la première place, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, chaque jour, Seigneur, à chaque instant. Merci parce que tu es à nos côtés maintenant, près de chacun, Seigneur. Tu nous accompagnes, Seigneur, tu connais nos vies, tu nous aimes. Merci pour ton amour, Jésus. Prends toute la place qui te revient, Jésus. Alléluia.
Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort.
Prends-moi tel que je suis. Mes peurs et mes échecs, viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois et je me soumets.
Oh Sauveur,
Sauveur. Déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort.
Resplendis
pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort.
Amen, sauve avec puissance. C'est là notre message d'espoir et merci à l'équipe de Louange ce matin, merci à la technique aussi. On va faire quelques annonces ce matin. Alors la toute première annonce, c'est à tous les papas, une bonne fête. Papa, je sais que tu me regardes, alors bonne fête. J'en profite. Nous vous signalons que nous sommes joignables au 06 28 13 58 51. N'hésitez pas à nous appeler. Voilà, on fait chacun de l'équipe pastorale, on tourne la semaine, on est présent au secrétariat, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un rendez-vous, si vous voulez qu'on vous appelle, vous avez besoin peut-être de parler, de vous confier, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi nous contacter sur l'adresse mail qui est contact@epi-strasbourg.eu. Vous pouvez suivre les cultes, bien sûr, sur le site de l'EPI. Vous pouvez aussi nous soutenir. N'hésitez pas à aller visiter le site de l'EPI. Il y a toutes les informations concernant l'Église. Alors, bien sûr, vous avez entendu que nous allons reprendre les cultes le dimanche 12 juillet. Alors, on ne peut pas vous donner plus d'informations. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, mais il nous manque quelques consignes qu'on recevra dans la semaine prochaine. Et donc, nous essaierons de vous communiquer au mieux comment on va s'organiser pour reprendre les cultes en présidence le dimanche 12 juillet. Voilà, ce matin, c'est notre frère Raymond Pierre qui va nous apporter le message. Et avant qu'il arrive, nous allons prier encore pour ces instants. Seigneur, je veux te remercier, c'est vrai, pour les chants, Père, que nous avons pu interpréter, Seigneur, et te remercier, mon Dieu, parce que c'est vrai, tu es vivant. Et je suis convaincue que ce matin encore, tu es vivant. Je suis convaincue que ta parole est bénie et je suis convaincue que tu bénis Raymond Pierre ce matin qui va apporter ce message, Père, que nos cœurs soient vraiment attentifs, que nos oreilles soient ouvertes, non pas pour entendre, mais pour écouter le message que tu as nous communiqué ce matin. Je te remercie pour tout, Père éternel. Amen.
Voilà, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour pouvoir vous partager le message que Jésus a mis sur mon cœur pour les prochaines semaines à l'EPI. On va traiter d'un sujet qui nous parle du bonheur et le titre que j'ai donné c'est « Il est où le bonheur ? Il est où ?» Qui ne cherche pas à être heureux ? Qui ne cherche pas à vivre de manière épanouie ? Seulement, lorsqu'on regarde à ce qui se passe autour de nous, on peut avoir l'impression que ce bonheur n'existe pas. Notre monde a été plongé dans un chaos. On traverse depuis quelques mois une succession de crises, des crises sanitaires, crises financières, et maintenant on est dans une crise identitaire. On affronte au quotidien un climat de méfiance, de stigmatisation, de haine, qui dépose plus de peur dans nos cœurs, de crainte et d'angoisse que de bonheur. Et tout ça, bien sûr, c'est alimenté par les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est marrant parce qu'à la base, ça a été créé pour faire de la connexion, pour faire du lien entre les uns et les autres. Mais finalement, on voit plutôt qu'en ce moment, ça sert à opposer. Je fais partie de tel groupe ou je fais partie de tel groupe. À la vue de ce qu'on traverse, on peut légitimement se poser la question, il est où le bonheur ? Il est où ? C'est le titre d'une chanson de Christophe Maé. Mais qui est tellement vrai et que beaucoup peuvent vivre. Mais il est où le bonheur dans toute cette histoire ? On peut avoir l'impression qu'on nous a trompés sur la marchandise. Vous savez, quand vous commandez quelque chose sur Internet, c'est tellement beau sur la photo, puis quand vous recevez, vous dites, c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce piège ? À la vue des familles éclatées, des amours déçus, des rêves brisés, de la maladie, des pertes de proches, des guerres, on peut se résigner à se dire que le bonheur, finalement, il est soit éphémère, soit il n'existe pas. Ou encore qu'il n'est pas pour nous, qu'il est réservé à certains et que moi, peut-être, j'en suis exclu. Vous savez, il y a en chaque homme et chaque femme cette quête profonde de bonheur, ce bonheur qui est peut-être absent ou perdu. On va voir ce matin que Jésus est venu pour traiter cette problématique du bonheur et y apporter quelques éléments de réponse. Il traite de ce sujet dans une section que l'on appelle le Sermon sur la montagne. On voit ça dans le chapitre 5 de la Bonne Nouvelle de Matthieu, dans l'Évangile de Matthieu. Et il commence ce sermon par un enseignement sur le bonheur appelé communément les béatitudes. C'est un terme qui vient du latin « beati » qui signifie « est béni ». Le théologien George Ladd dira que les béatitudes ont comme principal objectif de faire connaître un privilège actuel plutôt que de promettre une récompense future. Alors certaines béatitudes, et on le verra dans les semaines qui arrivent, nous parlent d'événements dans le futur, au moment du retour de Jésus, mais ce qu'on voit, c'est que l'élément principal, c'est que c'est quelque chose qu'on peut saisir pour notre vie aujourd'hui et maintenant. C'est une réalité. Jésus veut nous bénir. Il veut que nous soyons bénis, il veut que nous soyons heureux. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Premier point ce matin, c'est que Jésus désire que nous accédions au bonheur. Et on commence la lecture dans Matthieu 5, les versets 1 à 2, où le texte nous dit « À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. » On voit que les gens accouraient de partout pour voir ce Jésus qui annonçait le message de la bonne nouvelle et qui guérissait les malades, qui guérissait les infirmes parmi le peuple. Mais ce qui est intéressant dans notre passage, c'est que le texte commence en soulignant que Jésus remarqua la foule, à la vue de la foule. On voit que Jésus s'intéresse à elle. On voit que Jésus perçoit quelque chose chez elle. Jésus s'est arrêté parce qu'il a vu le besoin de cette foule et le besoin de chaque individu qui la composait. Il a vu en eux une soif de quelque chose, une soif de plus pour leur vie. Il a vu peut-être le mal-être, le malheur qui habitait certains. C'est pourquoi Jésus prend le temps de s'arrêter. Vous savez, Jésus connaît les soupirs profonds qui sont là en chacun de nous. Il n'est pas indifférent à ce qu'on peut vivre. Il n'est pas un Dieu qui a juste programmé le monde en pilote automatique. Mais il est un Dieu personnel qui veut prendre le temps de s'arrêter sur le chemin de ta vie. Peu importe l'origine, peu importe la culture, peu importe ta condition sociale, ta condition religieuse, peu importe qui étaient les gens qui étaient là dans cette foule à ce moment-là. Dans cette foule qui le suivait, Jésus a senti un vide dans le cœur de ces hommes et de ces femmes qui l'entouraient. Jésus ne voit pas seulement une foule de besoins, mais il voit une foule dans le besoin. Il s'arrête parce que dans chaque situation personnelle, dans chaque histoire, il désire proposer un chemin particulier, une nouvelle façon de concevoir la vie et finalement d'être heureux. Et ceci ne concerne pas que cette foule, mais elle te concerne toi aussi ce matin. Jésus veut s'investir dans ta vie. Il veut investir ta vie et te faire emprunter le chemin du bonheur qu'il a prévu pour toi. C'est ainsi que Jésus commence à enseigner cette foule. Dans certaines versions, vous pouvez lire, il ouvrit la bouche et se mit à enseigner. C'est bizarre de dire ça. Parce que forcément, pour parler, il faut ouvrir la bouche. À moins d'être ventriloque comme Philippe Châtre qui est venu il y a quelques semaines avec sa marionnette qui lui est capable de parler la bouche fermée. Mais généralement, pour parler, on a besoin d'ouvrir la bouche. Dans la pensée grecque, cette expression démontre qu'il s'agit d'une déclaration importante. C'est un oracle, c'est quelque chose qui mérite notre attention soutenue. Cela signifie encore que la personne va ouvrir son cœur et exposer sa pensée sur un sujet crucial. Ici, Jésus va répondre à la quête de chaque être humain, celui d'être heureux. Pourquoi l'homme cherche absolument à combler ce besoin? Tout simplement parce que c'est quelque chose qu'il a connu, mais qu'il a perdu. Vous savez, on ne peut pas manquer de ce qu'on ne connaît pas. Il y a 30 ans, personne n'avait de smartphone, personne n'avait YouTube, Netflix ou Disney+. Est-ce que les gens se plaignaient de ne pas avoir ça? Non, parce que ça n'existait pas. Lorsqu'il s'agit du bonheur, il semble que ce soit une aspiration dans le cœur de chaque être humain, comme un vide à l'intérieur de lui. C'est ce que dira le célèbre penseur français Blaise Pascal lorsqu'il dira « Il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne. Parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. Quelque chose a été coupé, quelque chose a été rompu, ce qui a entraîné un problème de connexion. » Ça, c'est notre peur en ce moment. On est sur YouTube tous les dimanches et on a peur que la connexion plante. Et c'est ce qui s'est passé. Là, il y a quelque chose qui a été perdu, il y a quelque chose qui a été coupé. Pasteur Denis Morissette a écrit dans son livre « Marcher sur le chemin du bonheur » que notre quête effrénée du bonheur cache justement une recherche instinctive et enrichissante qui comble les aspirations de nos cœurs et de nos âmes. Et pour pouvoir le retrouver, ce bonheur, il nous faut donc nous attarder à cet enseignement, à la pensée de Jésus sur ce sujet crucial. Car pour lui, le bonheur est accessible à tous, et ce, maintenant, et ce, dès aujourd'hui. Et c'est mon deuxième point, le bonheur s'expérimente par la simplicité. Matthieu 5,2, il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Jésus commence ici une série de 8 phrases choc que nous allons étudier durant toute cette série. 8 phrases qui peuvent sembler complètement folles et paradoxales dans nos sociétés modernes. On nous parle de bonheur dans la pauvreté, on nous parle de bonheur dans les pleurs, on nous parle de bonheur dans la souffrance. Waouh, c'est quoi le programme ce matin ? Le théologien John Stott dira « Les béatitudes mettent l'accent sur 8 aspects du caractère et de la conduite du chrétien ». Principalement dans sa relation à Dieu et aux autres, et sur la bénédiction que Dieu fait reposer sur ceux qui manifestent les signes du royaume. Les béatitudes et l'ensemble du sermon sur la montagne démontrent comment une personne qui a une bonne relation avec Dieu fonctionne. Il ne s'agit pas ici de la description de 8 groupes différents ou distincts, dont certains seraient doux, d'autres seraient miséricordieux, d'autres seraient prêts à être persécutés. S'il te plaît, Seigneur, pas moi, pas moi. C'est pas des groupes différents en disant ben, « j'espère faire partie de ce groupe et pas de celui-là ». Non, il s'agit de 8 traits qui caractérisent le disciple, qui caractérisent celui qui a décidé de suivre Jésus. Aucun n'échappe à la responsabilité de rechercher tous ces aspects que nous verrons dans cette série. Dans ce passage des Béatitudes, on trouve le terme « heureux » 9 fois. C'est le mot grec « makarios » qui signifie « est béni de Dieu, celui qui est béni de Dieu ». Tout de suite, on remarque que cette expression n'est pas un bonheur qui s'acquiert par tout ce qui pourrait venir de l'extérieur, une belle voiture, une belle maison, un gros jardin, un beau chien, un chat pour ceux qui préfèrent les chats. Vous savez, plein de gens autour de nous cherchent ces choses, les poursuivent, mais finalement ne sont jamais satisfaits. Les béatitudes nous parlent d'harmonie intérieure, une paix intérieure, quelque chose de stable à l'intérieur de nous. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut élever dans l'Église la pauvreté comme une vertu et puis qu'il faut diaboliser la richesse. Ce n'est pas ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les richesses ne peuvent pas combler nos cœurs. Et c'est ce que Blaise Pascal disait, on essaye de combler ce vide à l'intérieur de nous par toutes sortes de choses, mais ça ne paye jamais à la fin. Ça ne comble jamais, ça ne remplit jamais. Ça va toujours laisser un sentiment de vide, un goût d'inachevé. Regardez simplement le nombre de stars qui, à nos yeux, ont tout et qui finalement finissent par se droguer et parfois se donner la mort. Ils ont humainement tout, mais finalement le vide n'est pas comblé. Il y a un vide qui est impossible à combler dans nos cœurs si ce n'est pas Dieu qui occupe cette place. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu le confinement. Alors des fois je regarde par là parce qu'il y a quelques musiciens dans la salle. Je ne sais pas comment vous avez vécu le confinement, mais est-ce que vous avez remarqué comment on a repris goût aux choses simples de la vie ? Privés de liberté, les gens étaient heureux d'aller faire un petit footing pendant une heure. Ou ils étaient heureux, et là c'est plutôt moi, d'aller faire les courses. D'habitude c'est la corvée. Mais là de se dire, oh, je vais pouvoir sortir de chez moi, je vais pouvoir voir des gens, oh, c'est tellement bon. On a repris goût à des choses simples. Après le confinement, on a repris goût carrément à la rando, partir en forêt, on a la chance d'habiter en Alsace, on a le massif vosgien qui est là, et il y a des heures et des heures où on peut aller marcher, respirer le grand air, et ça fait tellement du bien. Vous savez, le bonheur actuel de notre époque, il est compliqué, il est lourd et il coûte très cher. Pourquoi ? Parce que le bonheur a été déformé, le bonheur a été modifié et finalement il ne produit pas le résultat recherché. La simplicité nous invite à finalement se dégager du superflu et de nous concentrer sur l'essentiel, les relations et non les objets. Quel bonheur d'avoir pu expérimenter de la proximité avec mon épouse pendant ces quelques mois à la maison. Bon, on a dû apprendre aussi à se coordonner parce qu'il fallait apprendre à télétravailler ensemble dans le même appartement, donc chacun sa pièce, attention, il ne faut pas laisser traîner des trucs, etc. Mais quel bonheur de pouvoir retrouver du relationnel. Avec nos vies, on court tout le temps, on est tout le temps partout, il y a eu ce temps d'arrêt qui permet finalement de revenir et de focaliser sur les vraies choses, les relations. Quelqu'un a écrit « Les êtres humains sont faits pour être aimés et les biens matériels pour être utilisés. Si le monde est à l'envers, c'est parce que les biens matériels sont aimés et les êtres humains sont utilisés. » La simplicité nous invite à nous débarrasser de l'excédent et du superflu pour nous contenter du nécessaire. Vous savez, comme pour les navires, lorsque nos vies sont trop chargées, on a besoin d'alléger la charge pour pouvoir profiter du voyage. Simplement s'alléger pour pouvoir continuer à naviguer. Vous savez, un de mes loisirs, c'est la pêche. Et je me rends compte que bien des fois, je pars avec toutes sortes de leurres, dans tous les coloris, dans toutes les tailles, dans toutes les formes, pour espérer attraper le poisson trophée que je vais pouvoir mettre sur les réseaux sociaux. Mais bien souvent, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le fait d'avoir les boîtes à leurres remplies fait que j'arrête pas de changer tout le temps parce que ça ne mord pas. Et du coup, mon hameçon, il n'est pas dans l'eau. Mais pour qu'on puisse attraper un poisson, il faut que l'hameçon soit dans l'eau. Mais des fois, on perd notre temps à changer de leurre, à changer de matériel, à réfléchir quel coloris je vais mettre. Peut-être que c'est le jaune aujourd'hui, peut-être que c'est le vert, j'en sais rien. Et on est là, et finalement, l'hameçon n'est pas dans l'eau. La grande quantité de leurre, finalement, m'encombre plus qu'elle m'aide à pêcher. Alors depuis, j'essaie de pêcher avec moins de leurre, juste deux ou trois types en fonction de la hauteur d'eau. Et ça m'évite de me promener avec tout mon garage dans mon sac à dos, parce que souvent ça c'est compliqué. On va voir ce matin que le bonheur n'est pas l'absence de malheur, mais c'est une sérénité et une tranquillité au sein de l'adversité. Le bonheur n'est pas une vie où la souffrance ou les difficultés ne nous atteignent pas, mais le bonheur que les béatitudes décrivent, c'est quelque chose qui se construit au quotidien, malgré les obstacles qu'on peut rencontrer. Mais pour pouvoir le vivre et l'expérimenter, ça nécessite un changement de mentalité, un changement de fonctionnement. Et c'est mon troisième point ce matin, le bonheur s'expérimente par l'humilité. Jésus commence par parler de pauvreté. Ouf! Dans notre société, on a l'impression que pour être heureux, il faut être riche. Jésus nous montre qu'il n'y a pas besoin d'argent pour acheter le bonheur. Le bonheur n'est pas à vendre. Il est à la portée de tous. Il est à la portée de chacun. Tout le monde peut y prétendre. Mais nous allons voir aussi qu'il n'est pas à donner. L'enseignement de Jésus nous montre qu'il s'acquiert et se vit par un changement, par un effort conscient et constant. Bien souvent, l'obstacle au bonheur dans notre propre vie, c'est nous-mêmes. Le terme « pauvre » qui est employé dans ce passage, « heureux les pauvres en esprit », c'est le terme grec « tokos » qui signifie littéralement « être mendiant ». Il décrit l'état de dénuement d'une personne qui est rendue à devoir mendier. C'est de quelqu'un qui, à cause du fait de son appauvrissement, ne peut pas par lui-même pourvoir à ses besoins. Ne possédant pas cette capacité, il se tourne vers quelqu'un d'autre qui l'aidera et assurera sa subsistance. Et c'est pas par hasard que Jésus emploie ce mot. Celui qui veut être heureux doit reconnaître son besoin de Jésus et son incapacité à trouver le bonheur de la paix par lui-même. Est-ce que vous savez pourquoi les bébés crient ? Vous savez, quand ils sont tout petits, je pense à Pierre Samuel qui est en train de vivre ça, là, il nous écoute sur Internet, pasteur Pierre Samuel, qui est en train de vivre ça, le bébé tout petit qui est en train de pleurer, certainement au moment même où je parle, peut-être pas. Pourquoi le bébé pleure ? Pour manifester, par exemple, quand ils ont faim ou quand ils ne sont pas bien. Pourquoi ? Parce que le bébé est incapable d'aller au frigo pour aller chercher sa bouteille d'eau et son steak haché. Il est incapable de le faire. D'ailleurs, il ne peut pas manger le steak haché, il n'a pas de dents encore. Il est incapable de se soigner par lui-même. Il ne peut pas aller à la boîte à pharmacie et dire « je vais prendre un doliprane ». Je ne sais pas si on donne des doliprane aux enfants, j'en ai pas, alors je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne peut pas se soigner par lui-même. Lorsque la douleur vient, par exemple, lorsque les dents sont en train de sortir. Et je crois que comme les nourrissons, on a besoin de reconnaître que nous avons des besoins et que nous devons les présenter, peut-être même parfois crier à Dieu, parce que c'est lui seul qui peut nous aider. C'est lui seul qui peut nous délivrer. Le théologien Don Carson écrira qu'être spirituellement pauvre, c'est reconnaître sa banqueroute spirituelle. Confesser qu'on ne vaut rien devant Dieu et qu'on est entièrement dépendant de lui. Le royaume de Dieu est donné aux pauvres, aux publicains méprisés, aux prostituées, à ceux qui savent qu'ils sont si pauvres, qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien offrir et qu'ils n'essaient pas. Ils implorent la miséricorde et eux seuls sont entendus. Eux seuls sont entendus. Pauvre en esprit ne parle pas ici d'une déficience mentale, ne parle pas d'un manque d'intelligence, d'un manque d'éducation. Il ne s'agit pas non plus d'un manque de compétences. On ne parle pas ici de dénigrement de soi, d'abaissement de soi ou de penser du mal de soi-même. Il ne s'agit pas ici de dire « je suis un nul, je suis un moins que rien ». Combien de personnes sont prisonniers de ce type de pensée ? Toutes ces paroles qui disent « je ne suis rien ». J'ai aucune valeur. Je suis un nul, je suis un mauvais, je suis un raté. Vous savez, Dieu ne prend pas plaisir à ce que vous vous rabaissiez. Vous savez, il a quitté sa condition céleste pour venir sur terre, prendre notre condition humaine justement parce que nous avions de la valeur, parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Je veux parler à quelqu'un ce matin en particulier. Et j'ai envie de te dire que Dieu ne prend pas plaisir à te voir souffrir en te dépréciant constamment. Tu es précieux, tu es précieuse à ses yeux. Être pauvre spirituellement, c'est être dans l'humilité. L'humilité ou la pauvreté en esprit ne consiste donc pas à penser du mal de soi-même. C'est pas être en train de se traîner dans la boue. C'est simplement se connaître tel qu'on est. Vraiment. Et l'inverse de cela, c'est l'orgueil. Dans l'orgueil, nous pensons de nous-mêmes plus de bien que la vérité ne le permet. L'orgueil nous fait croire que nous n'avons besoin de personne et que nous n'avons pas besoin de Dieu dans nos vies. L'orgueil nous fait résister à toute forme de remise en question. L'orgueil consiste à dire que Dieu n'a pas son mot à dire dans la gestion de ma vie. Et c'est ce qu'on appelle le péché. C'est passer à côté du plan de Dieu, passer à côté du but de Dieu pour ma vie. Dieu a une destinée, Dieu a un plan pour ta vie. Et on a besoin de s'aligner sur ce que Dieu a prévu pour nous, parce que notre Dieu est bon, parce que notre Dieu est amour, et il connaît les projets qu'il a pour chacun d'entre nous. Il a une destinée pour chacun d'entre nous. Et nous avons besoin, nous, de nous aligner, c'est-à-dire, Seigneur, puisque tu es bon, puisque tu es juste, puisque tu es amour, je veux vivre ce pourquoi tu m'as créé. Je veux expérimenter ce pourquoi tu m'as fait, ce pourquoi tu m'as fait venir sur cette terre. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur de parcours. Et même si, humainement, tu as l'impression que tu n'as pas été voulu désiré, si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu t'a voulu. Et il souhaite que tu t'alignes, que tu expérimentes, que tu vives ce pourquoi il t'a créé. Tu as besoin de t'aligner sur le ciel, sur ce que le ciel a pour toi. Le problème, c'est que l'orgueilleux veut pas de ça. Il dit « j'ai pas besoin de Dieu ». Je trouvais cette citation intéressante qui dit « l'orgueilleux aime mieux se perdre que de demander son chemin ». Alors on voit ça souvent chez les hommes. Quand on est en voiture avec ma femme, qu'on part quelque part et qu'à l'époque il n'y avait pas forcément le GPS sur le téléphone, et puis que je ne savais pas trop où j'étais, ma femme me disait « tu sais, si tu veux, on peut s'arrêter, il y a une personne, on peut lui demander. » Non, je gère. T'inquiète pas, j'ai besoin de personne. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi les hommes, on est particulièrement bons à dire « j'ai besoin de personne, je me débrouille en voiture ». C'est quoi le problème de demander sa route à quelqu'un ? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête qui dit « là, il y a un bug, il y a un problème, je ne peux pas demander ma route ». En fait, c'est l'orgueil. C'est croire qu'on est meilleur que les autres et qu'on n'a besoin de personne. Je suis actuellement à un cours de relations d'aide avec Denis Morissette. Et il fait remarquer que le paradoxe de notre vie moderne, c'est que les gens se permettent de vivre avec du ressentiment, avec du mépris, avec de la haine, mais ils ont envie de se sentir bien en même temps. C'est pas possible. Il y a besoin d'un véritable nettoyage de la vie intérieure pour que la vie soit meilleure. On a besoin de ce nettoyage dans nos vies. Je peux pas cultiver de la haine, de pas peut-être pardonner quelqu'un par rapport à quelque chose qu'il m'a fait et puis entretenir cette amertume dans mon cœur et de dire à côté de ça, Seigneur, j'ai besoin d'être bien. On n'est pas créé pour ça. Vous savez, le péché, c'est une déformation des choses de Dieu. Dieu nous a créés pour être en relation. Et lorsqu'on est en tension, ben c'est normal qu'on n'est pas bien. Il y a besoin d'un nettoyage. Mais le problème, c'est que les gens souvent refusent de travailler à leur vie intérieure. On a besoin de travailler à notre vie intérieure. Lorsque nous recevons des gens en entretien pastoral, parfois on rencontre des gens qui sont un peu remplis d'eux-mêmes, imbus de leur personne, qui ne vont pas bien. Mais lorsqu'on remarque que ces derniers refusent l'humilité de reconnaître leurs torts, malheureusement, on sait que les chances de voir un changement chez eux vont être minces. Si je refuse de changer, rien ne va bouger. Si je refuse de laisser Dieu mettre le doigt sur certaines choses, rien ne va changer. L'humilité de cœur crée l'ouverture nécessaire au changement. Je le dis souvent, mais si vous voulez que les choses changent, il faut changer des choses. Si vous voulez que des choses bougent, il faut bouger des choses à l'intérieur de nous. Pas chez les autres, chez nous, dans nos cœurs, c'est là que ça commence. Il faut laisser Dieu agir. Vous savez, les orgueilleux vont gâcher leur propre vie et celle de ceux qui les entourent. Juste parce qu'ils portent ce masque pour cacher leur incapacité à s'examiner eux-mêmes et à reconnaître leur faiblesse. Scott Peck écrira « Les pauvres en esprit ne font pas de mal. Le mal n'est pas le lot de ceux qui ne se sentent pas sûrs de leur droiture, qui s'interrogent sur leurs propres motifs, qui ont peur de se trahir eux-mêmes. Dans ce monde, ce sont les riches d'esprit, donc les gens remplis d'eux-mêmes, qui commettent le mal. Nos pharisiens modernes qui se croient sans péché parce qu'ils refusent de se livrer à un examen de conscience sérieux. » Donc les pharisiens, c'est pas un gros mot, c'était les religieux du temps de l'époque de Jésus qui étaient pleins de certitudes par rapport à ce qu'ils croyaient, à ce qu'ils vivaient. Et du coup, ils étaient remplis d'eux-mêmes. En gros, ils avaient besoin de personne parce qu'ils étaient des bonnes personnes, ils appliquaient les lois de Dieu, donc Dieu les bénissait, etc. Donc il n'y avait rien à corriger chez eux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils croyaient. Et Jésus les a confrontés. On connaît cette histoire dans la Bible où il y a deux hommes qui sont là, puis il y a un religieux qui est là et dit « Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme ce gars là-bas. Là. » Lui, il a une vie pourrie, mais moi, je te remercie parce que je suis meilleur que lui. Et puis, il y avait un homme à côté qui, lui, n'osait même pas lever les yeux au ciel et qui se frappait. Il disait « Malheur à moi !» Et il se frappait, et il se frappait. Et Jésus dira « Celui qui va repartir justifié, c'est celui-là. Celui qui n'osait même pas lever les regards vers Jésus en reconnaissant sa condition. » Mais le religieux, lui, il est reparti sans avoir reçu ce qu'il aurait pu avoir s'il avait été dans cet état d'esprit de dire « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce sur ma vie. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. » Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est aussi une phrase que je dis souvent, mais chercher à sauver les apparences nous empêche d'expérimenter la délivrance. Chercher à sauver les apparences nous empêche d'expérimenter la délivrance. L'humilité nous fait reconnaître nos limites et nos fragilités. Jésus nous invite à un examen minutieux, à un constat lucide de l'état de notre cœur, et finalement de réaliser que sans lui, nous sommes perdus. Jésus a donné sa vie afin que nous retrouvions ce bonheur perdu, sa présence dans nos vies. Il nous invite à dépendre de lui, il nous invite à placer notre confiance en lui seul. Et lorsque on réalise notre misère spirituelle, lorsque peut-être nos larmes coulent, lorsque nous sommes dans cette attitude d'humilité face à Dieu et que nous nous attendons à la manifestation de sa grâce dans nos vies, c'est là que nous recevons sa consolation. Le texte nous dit que le royaume des cieux leur appartient maintenant. Ce n'est pas juste une promesse pour le futur. C'est que le royaume des cieux est à eux. lorsque je suis dans cette attitude d'humilité, le royaume de Dieu descend et prend quelque part possession de ma vie. Et le royaume de Dieu commence à se manifester dans ma vie, il commence à se manifester dans mes relations, il commence à se manifester dans mes attitudes, il commence à se manifester dans nos cœurs. Alors on n'est pas parfait, mais il y a un processus, une œuvre de Dieu qui prend place dans nos cœurs. Et le royaume s'expérimente aujourd'hui et maintenant. Et c'est ce royaume-là qui va faire la différence, qui va interpeller ceux qui nous entourent. Pourquoi les gens... Des fois, ils disent, regardez, les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Tout simplement parce que nous ne vivons pas vraiment, nous ne vivons pas réellement la manifestation du royaume dans nos relations, dans nos vies et dans notre quotidien. Le monde a besoin de voir la révélation des fils de Dieu. Il a besoin de voir ce royaume de Dieu s'étendre dans nos vies et dans nos cœurs. Et comme on l'a dit, il n'y a rien à faire de plus si ce n'est de s'humilier devant Dieu et de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pas de se déprécier, on l'a dit tout à l'heure, mais de simplement reconnaître que sans lui, nous sommes perdus, que sans lui, nous faisons de mauvais choix, que sans lui, nous prenons de mauvaises décisions. Et de dire, Seigneur, règne, Seigneur, remplis-moi. Et alors, il y a quelque chose qui va prendre place parce que notre Dieu agit encore aujourd'hui, parce que son esprit vient habiter dans ceux qui disent, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et l'œuvre de Dieu commence à se manifester. Et il y a quelque chose de fort quand le Saint-Esprit est à l'œuvre entre nous, en nous, pardon. C'est que ça se voit pour ceux qui nous entourent. Les gens se disent, il y a quelque chose de différent. Il vit quelque chose, il vit une réalité que je ne vis pas. Et j'ai l'impression de voir qu'il est heureux malgré tout ce qu'il peut vivre ou traverser. Il y a quelque chose de différent. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres en esprit, pauvres de cœur. En laissant Jésus nous diriger, diriger notre façon de penser et notre façon d'agir, nous allons expérimenter le ciel sur la terre, dans nos cœurs et dans notre quotidien aujourd'hui. La grâce de Dieu est une puissance qui nous permet d'accomplir ce qui nous était impossible par nous-mêmes et par nos propres forces. Jérémie dira que le cœur de l'homme par nature est méchant et tortueux. Mais avec l'Esprit de Dieu, tout est possible. C'est le principe de la grâce et de la miséricorde de Dieu qui se manifeste. La grâce, c'est un cadeau immérité. Dieu nous donne son amour alors qu'on ne le mérite pas. Et sa miséricorde se traduit parce que Dieu ne nous juge pas de ce que nous sommes coupables. Quand la miséricorde de Dieu se manifeste, et je le dis souvent, c'est la contraction de deux mots, miséricorde, c'est Dieu littéralement qui tend une corde au sein de notre misère. On va conclure ce matin, et je vais inviter l'équipe à s'approcher, l'équipe de musiciens, mais que tous ensemble, simplement ce matin, nous puissions prendre conscience que de la même manière que Jésus s'est arrêté et s'est assis pour que cette foule puisse saisir le bonheur qu'il veut pour elle, je crois que Jésus veut aussi s'arrêter ce matin sur le chemin de nos vies. Ce bonheur est à notre disposition et nous sommes invités à nous en emparer, nous sommes invités à nous saisir de ce bonheur qui est là. Nous avons besoin de nous emparer de ce bonheur par la simplicité et par l'humilité. Abandonnons les fardeaux que nous voulons absolument garder dans notre recherche du bonheur, comme le désir d'avoir toujours plus ou d'être rempli de nous-mêmes, d'être autosuffisant. Tout cela ne fait qu'entraver et voler le bonheur que Dieu met à notre disposition sur le chemin de la vie. Laissons peut-être maintenant le Saint-Esprit mettre le doigt sur les zones de nos cœurs qui ont besoin d'être nettoyées. Vous savez, lorsque Dieu met le doigt sur quelque chose dans nos vies qui a besoin d'être changé, c'est jamais pour nous enfoncer, mais c'est pour nous relever. Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de découvrir notre Dieu comme un père aimant et non un bourreau. Je vais le redire encore, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui ne cesse de se déprécier et qui croit que ça fait plaisir à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir au fait que tu te déprécies, que tu te dévalorises constamment. Il veut simplement que tu cries à lui. Dieu veut te relever ce matin. Il veut te sortir de cette prison dans laquelle tu es enfermé. Il n'est pas un bourreau. il est un père aimant. Alors peut-être que tu n'as pas eu le privilège ou la grâce d'avoir un papa terrestre, physique, qui a peut-être pris soin de toi. Mais je veux te dire ce matin qu'il y a un papa au ciel qui t'aime juste pour qui tu es. Qui t'aime juste pour qui tu es. Tu as de la valeur à ses yeux. Et il veut s'investir dans ta vie. Je crois qu'il veut passer peut-être sur les plaies encore, peut-être saignantes de ton cœur ce matin. Il veut passer par son esprit. Commencer à cautériser la plaie. Et puis peut-être y mettre quelques points de suture. Peut-être ça va te faire mal sur le moment. Mais Dieu veut ta restauration complète. Ton Dieu t'aime. Tu as de la valeur à ses yeux. Cesse de te dévaloriser. Et entre dans la destinée que Dieu a pour toi. Denis Morissette dira que la vraie spiritualité amène l'élévation de l'âme et non son affaiblissement et son effondrement. Être chrétien, ce n'est pas cesser d'être qui tu es, c'est d'être toi en version améliorée. C'est un investissement. Dieu veut investir ta vie ce matin. Je veux prier. Seigneur, merci Père parce que ton royaume est accessible ce matin. Merci Jésus parce que je n'ai pas besoin de multiplier les efforts ou sortir toutes mes richesses ou tout ce que j'aurais pu faire ou accomplir pour être au bénéfice du bonheur que tu as pour nous. Parce que ce bonheur, pour nous l'offrir, tu as payé le prix pour nous Jésus. Tu as donné ta vie à la croix pour combler ce fossé qu'il y avait entre nous et toi. Ce fossé qui mettait une séparation entre nous et toi. Tu es le seul qui peut combler littéralement le vide de nos cœurs ce matin. Seigneur, je veux t'inviter à souffler, à encourager, à fortifier peut-être quelqu'un devant son écran. Seigneur, tu as donné ta vie parce que nous avons de la valeur à tes yeux. Ma prière ce matin, c'est que les uns et les autres puissent entrer dans ce pas de confiance avec toi. Peut-être laisser ta main mettre le doigt sur certaines choses, certaines situations qui sont là et qui sont des choses qui paralysent, qui bloquent ta vie depuis des années. Il veut opérer ce matin dans ton cœur. Il veut opérer dans ta vie pour que tu puisses en sortir relevé, encouragé et fortifié. Dieu veut votre bonheur, mes amis. Que le Seigneur vous bénisse.
Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia. Alléluia, alléluia, tu es saint, tu es tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout
supporter. Éprouvé, je tiens. Pardonné, je viens. Avec tous les saints, chante et tu reviens. Allez. Et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité. Et tu vis à jamais.
Alléluia.
Amen. Sa sainteté ne l'a pas empêché de descendre jusqu'à nous. Et c'est juste merveilleux. Il est où le bonheur? Et le bonheur, il est au pied de Dieu. Il est au pied de Dieu. Et oui, c'est vrai que parfois on a l'orgueil, parfois il y a pas mal de choses, mais c'est juste merveilleux de se dire qu'un Dieu si grand, si puissant, si parfait, ne s'est pas arrêté à nos imperfections, bien au contraire, mais par amour, il t'offre le bonheur. Et il y a une personne qui disait, je ne sais plus qui, mais qui disait que dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Juste, il te manque cette petite pièce, enfin, j'ai envie de dire cette grande pièce du puzzle, de t'approcher de Dieu et de trouver ce bonheur. Alors vraiment, merci encore à l'équipe de Louange, merci à Raymond Pierre, à l'équipe de technique pour ces temps qu'on a passés ensemble, vraiment bénis, vraiment merveilleux, qui nous ont fait du bien, j'espère qu'ils vous ont fait du bien aussi. Et nous sommes avec l'équipe de l'équipe pastorale, nous sommes vraiment de tout cœur avec vous, dans la prière, régulièrement nous pensons à vous, et vraiment nous sommes connectés à vous régulièrement. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas surtout de nous appeler, de nous contacter pour parler avec nous. Et nous voulons vraiment vous souhaiter un bon dimanche. Et avant, je voudrais encore remercier Dieu. Merci, c'est vrai, mon Dieu, pour ces instants bénis. C'est juste ouais, une pépite, ta parole. C'est vraiment merveilleux. Et tu sais, Seigneur, comme je désire vraiment pas que... Ouais, j'ai écouté. J'ai entendu et cette parole est venue dans mon cœur, percuté encore mon cœur ce matin et j'espère qu'elle a encore percuté des cœurs et qu'elle ne reste pas là sans effet, mais qu'elle puisse grandir parce que Seigneur, à l'écoute de ta parole et à la mise en pratique de ta parole, on devient ces créatures si merveilleuses. tu nous redonnes cette valeur initiale, Seigneur. Merci. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci encore de nous relever, de fortifier, Seigneur, d'encourager ceux qui ont besoin, de guérir les malades, Seigneur, de consoler les cœurs brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Amen. Soyez tous bénis et bon dimanche à tous.